Europe 1,
édition spéciale municipale. Sébastien Krebs, Wendy Bouchard.
Vous êtes sur Europe 1 et nous suivons les résultats au fur et à mesure qu'ils nous parviennent. Depuis 20h, 60% des Français ne se sont pas déplacés pour aller voter. C'est l'estimation ce soir des instituts de sondage. Pour quel résultat? Le point à 20h, quasiment 30, avec Virginie Salmen.
Et une victoire du Premier ministre Édouard Philippe au Havre avec 58,83% des suffrages. Perpignan bascule à l'extrême droite avec le candidat Louis Alliot qui aurait entre 53 et 54% des suffrages face au LR Jean-Marc Pujol. Le PS revendique ce soir la victoire dans une quinzaine de villes dont Mimizan, Fleury-les-Aubrais, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Millau, Frontignan, Quimper, Nancy avec la victoire de Mathieu Klein, Périgueux, Delphine Labaïs, Le Mans, Stéphane Le Foll, Alençon, Joachim Puyot, Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, Saint-Brieuc, Hervé Guillard, Marmande, Brest et également Clermont-Ferrand avec Olivier Bianchi qui serait réélu. Le PS revendique sa victoire. À Besançon, les estimations placent la candidate écologiste Anne Vigneault en tête avec 43,1% des suffrages. Poitiers bascule du PS vers Europe Écologie Les Verts avec Léonore Monconduit qui revendique la victoire à Poitiers face au PS Alain Claisse. Et puis Lille dans un mouchoir de poche. Le suspense se poursuit avec Stéphane Bally, le candidat Europe Écologie Les Verts, qui serait en tête avec 40% des suffrages. Martine Aubry derrière avec 39% des suffrages. Et puis le Rassemblement National revendique la victoire dans au moins trois communes ce soir. Moissac dans le Tarn-et-Garonne avec Romain Lopez, Mazan dans le Vaucluse et Bédarrides dans le Vaucluse. À Pau, les estimations placent François Bayrou réélu avec 55,5% des suffrages.
Virginie Salmen, merci pour tous ces résultats que vous pouvez découvrir également sur Europe1.fr en temps réel. Jean-Christophe Cambadélis, bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas Bay, bonsoir également.
Bonsoir.
Vous qui êtes redéputé pour le Rassemblement National. Virginie Salmen le disait, le Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, revendique la victoire dans une quinzaine de villes. Olivier Faure, le patron, ce soir, salue cet immense élan qui se lève, mais il y a ces symboles. Martine Aubry, ce soir, en difficulté. Et l'inquiétude qui est la vôtre pour elle aussi?
Oui, bon oui, on est inquiet, mais je pense que la nouvelle ce soir, c'est quand même la participation.
Mmh. Et qui vous rend plus inquiet encore?
Ben oui, ça me rend plus inquiet encore, parce que on a l'impression d'être confronté à une véritable lassitude française. Il y avait 54% de participation, il y en a 40% aujourd'hui. Cela veut dire que les Français ne se sont pas déplacés, ils n'ont pas envie de participer, il y a une espèce de malaise... de mal-être français qui s'exprime à travers cela. Après, il y a le résultat des formations politiques, mais dans un espace qui est quand même beaucoup plus restreint.
Ça vous rend de moins en moins légitime, c'est ce que vous entendez.
Oui, ça rend, c'est intéressant, et évidemment, moi je me félicite du fait qu'il y ait une poussée socialiste, particulièrement dans l'ouest de la France. Je suis assez heureux que l'on gagne aussi à l'est, à Nancy, une ville, et ce n'est pas fini. On attend les résultats de Montpellier, qui... sont peut-être positifs, mais enfin, il y a un petit goût quand même, un petit arrière-goût un peu dû à la participation.
Donc l'immense élan qui se lève, vous ne le voyez pas tout de suite là?
C'est un espoir.
C'est une formule
politique. Qui se lève, c'est un premier secrétaire du Parti Socialiste qui parle et qui encourage ses troupes. Mais j'ai fait ce rôle, je sais ce que c'est.
C'est pas la formule que vous auriez employée ce soir.
Non, c'est pas tout à fait ça. Honnêtement, c'est contrasté parce qu'on ne peut pas non plus cacher qu'on a perdu et Poitiers et qu'on risque de perdre Lille, qui sont quand même deux grands fleurons de l'histoire du Parti Socialiste, qu'on a gagné des villes et qu'on en gagnera d'autres, évidemment. Donc c'est contrasté. Le PS est là, n'est pas à terre, comme certains pensaient le trouver. Il domine l'ensemble de la gauche. C'est ce qu'on verra au lendemain de ces élections. C'est le nombre de villes emportées ou dirigées par les socialistes et sans commune mesure avec les autres forces, même si, il faut noter, la percée des écologistes.
Mmh. Marseille, vous y croyez ce soir?
Écoutez, Marseille, c'est une élection particulière parce que c'est une élection par secteur. Et donc, on oublie souvent ça. On voit les chiffres en brut, ce qui n'est pas le cas à Lille. C'est ça la différence. C'est par secteur. Donc, vous pouvez être en tête. Ça nous est arrivé de nombreuses fois à Paris. Mais vous ne gagnez pas parce que vous n'avez pas gagné la totalité ou la majorité des secteurs ou des arrondissements qui vous emmènent à avoir le maximum de grands élus.
Il y a les voix, il y a les sièges.
Au conseil municipal. Donc, c'est une élection compliquée.
et qui va nous amener probablement très tard ce soir.
Ou jusqu'à vendredi.
Peut-être même jusqu'à la fin de la semaine. Je salue Nicolas Bay, eurodéputé Rassemblement National, qui nous a rejoint également. Bonsoir. Le Rassemblement National, pardon, qui revendique un certain nombre de victoires ce soir. Bruit la Bussière dans le Pas-de-Calais et le symbole que vous cherchiez ce soir et que vous avez conquis, c'est Perpignan, la première ville Rassemblement National de plus de 100 000 habitants.
Oui, c'est une très belle victoire de Louis Alliot, largement méritée. Louis Alliot a fait un travail remarquable d'implantation locale de longue date. Donc c'est ça couronne à la fois le travail de fond qu'il a mené, la crédibilité de son projet, de son équipe à Perpignan. Et puis c'est aussi la démarche d'ouverture qui a été la sienne, sa capacité à attirer dans son équipe et puis d'une manière générale des électeurs qui venaient parfois d'autres horizons politiques. Donc c'est une très belle victoire à Perpignan. Le Rassemblement National avait conservé dès le premier tour la plupart des villes gagnées en 2014. Ce soir, Perpignan, évidemment, est un symbole particulièrement fort parce que c'est une grande ville, mais nous gagnons aussi un certain nombre d'autres communes. Vous avez cité La Bussière, Moissac, on attend encore des résultats dans d'autres communes. Je pense également à Bédarides, Morières-les-Avignon, où il semblerait que nous ayons gagné aussi. Donc tout ça, c'est beaucoup de bonnes nouvelles. Maintenant, c'est vrai que la participation n'est pas satisfaisante.
Sur 35 000 communes, ça fait une dizaine de communes, ou une vingtaine peut-être maintenant.
En réalité, il y a 35 000 communes, dont la plupart sont des toute petite commune rurale, où il n'y a aucune étiquette politique qui concourt. En réalité, il y a environ un millier de communes de plus de 10 000 habitants et c'est dans ces communes-là où il y a des étiquettes politiques qui s'affrontent.
Et donc, combien de maires Rassemblement National, alors
écoutez,
nous
parlons. On verra, mais vous savez, le travail d'implantation locale, c'est un travail de fond qui est complexe. La République En Marche l'éprouve ce soir assez durement. Nous avons été présents dans un nombre important de villes. Nous en gagnons un certain nombre de plus que la dernière fois, donc c'est une vraie progression objectivement du Rassemblement National. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que la participation très faible, la campagne très difficile qui s'est menée dans des conditions tout à fait particulières, un second tour qui intervient plusieurs mois après le premier tour, tout ça n'a pas été peut-être très propice à la mobilisation des électeurs. Ça n'a pas empêché des victoires là où nos électeurs voyaient une victoire possible. Ça nous a sans doute pénalisés, mais d'autres aussi, d'ailleurs, convenons-en, dans pas mal de communes.
Mais ce n'est pas la conquête et le maillage dont vous pouviez rêver.
Si, c'est la poursuite du maillage territorial. Je crois qu'il faut à la fois percevoir que ces élections municipales sont bien sûr à l'occasion pour les Français de s'exprimer dans les urnes, donc c'est un rendez-vous politique important. En même temps, tout le monde le voit bien, ce sont des logiques locales qui souvent l'emportent, d'où l'importance de l'implantation locale. La belle victoire de Louis Alliot ce soir, c'est la victoire du travail qu'il a mené localement. Et évidemment, ça participe à une dynamique générale, une dynamique nationale. Mais il faut respecter évidemment le caractère municipal, local du scrutin.
Alors, Édouard Le Serre, une petite posture, un petit point, je n'aurai pas mon mot, sur la participation. Parce qu'on va un peu vite en disant seulement 40% des Français sont allés voter, mais ce sont 40% tout de même. En général, lorsque les enjeux sont mal compris ou plus faibles, qui surmobilise dans les partis concernés aujourd'hui ? Est-ce qu'on est en mesure de le dire pour ce second tour 2020 ?
On n'est pas encore capable de le dire pour le second tour, mais on peut avoir les éléments du premier tour. Et les éléments du premier tour étaient assez frappants parce que justement, lorsqu'il y a une participation très faible, en général, vous avez des électeurs qui sont extrêmement fidèles aux urnes. Et ces électeurs sont en général très structurés selon l'âge. Plus vous êtes âgé, plus vous avez l'habitude d'aller voter, vous vous rendez régulièrement, quel que soit le scrutin, qu'il soit européen qui participe moins, qu'il soit municipal qui habituellement participe plus, ou présidentiel encore plus. Ce qui était très étonnant lors du premier tour, c'est que la décrue a été extrêmement forte chez les catégories les plus âgées. C'est-à-dire qu'on a vu des catégories de personnes âgées, on va dire, de 65 ans et plus, dont on sait qu'elles participaient en général autour de 80-85% sur les élections municipales, tomber à 50% de participation. Elle restait la catégorie la plus participante, mais c'était aussi celle qui avait le plus décru. Donc ça veut dire qu'on est vraisemblablement, sur ce second tour, sur la reproduction de ces éléments-là. Je ne vois pas un brassage électoral considérable qui se serait passé entre le premier et le second. C'est-à-dire que vraisemblablement, encore une fois, on a reproduit cette particularité très, très, très intéressante, très, très étrange d'une certaine manière, mais aussi, on l'explique par le Covid, d'un corps électoral sur lequel les catégories les plus participantes ne se seront pas rendus aux urnes. Ce que l'on peut voir aussi, dans un certain nombre de résultats que l'on avait là, c'est que ces catégories sur lesquelles comptaient un certain nombre de candidats, et notamment de candidats implantés, on va dire peut-être un peu plus notabilisés, ils comptaient
sur... Par exemple, Parti Nobry ?
Par exemple, sur le fait de pouvoir mobiliser ces catégories-là. Leur dire, écoutez, je suis là, il va y avoir une crise économique, je suis capable de résister à ces éléments-là, face à notamment des assemblages parfois verts EPS, qui aurait pu faire peur. Et donc, on a bien vu d'ailleurs dans un certain nombre d'éléments de campagne, on essayait de mettre en avant cet ensemble, on a parlé de pastèque, c'est-à-dire vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Il semble que ça fonctionne pas vraiment. On va voir d'autres résultats. Il faut attendre Toulouse, notamment, que ça sera très intéressant de ce point de vue-là. Mais ça n'a pas tellement fonctionné, parce que ça aurait fonctionné avec le moteur d'une surmobilisation, notamment de catégories plus habituées à venir et à revenir aux urnes.
En tout cas, il y en a un qui se satisfait demain, qui sera d'ailleurs l'invité de la matinale de Sonia Mabrouk à 8h15, c'est Yannick Jadot, Jean-Christophe Quimbadélis, qui salue la victoire d'une espérance, d'un beau projet écologiste dans plusieurs villes, de Poitiers à Besançon, et la liste risque de s'enrichir ce soir. Quelle est votre analyse sur cette poussée écologique qui, depuis les européennes, manifestement, ne faiblit pas?
Il y a une poussée écologiste dans la société. Il y a une percée écologiste sur le plan électoral. Mmh. Mais cela ne recompose pas l'ensemble de la vie politique française. Je prends toujours un exemple, c'est qu'en 1977, les socialistes sont passés devant les communistes dans une quarantaine ou une cinquantaine de villes. Et là, ils ont construit un nouveau rapport de force. Ce n'est pas le cas. Il y a des succès significatifs, et je m'en félicite, souvent dus à une alliance avec les socialistes, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a d'autre côté des situations où le Parti socialiste reste extrêmement fort. Et même en termes de villes, en termes d'élus, on le verra plus tard, il est toujours la force dominante. Alors, il y a un début de rééquilibrage, tant mieux, mais il n'y a pas une recomposition. Moi, je pense beaucoup plus qu'il y a une décomposition politique, vu la participation. Et pas encore une recomposition. Il faut faire un drôle d'effort pour recomposer la vie politique.
Ça veut dire que l'union de ces gauches, des écologistes, des socialistes, c'est le seul salut possible. Il n'y a pas de victoire pour le PS possible sans une alliance avec les Verts aujourd'hui.
D'abord, il faut une offre politique. L'union, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Quel est le projet que l'on porte? Est-ce que c'est un projet écologiste radical que semblent porter certains, ce qui n'est pas le cas de M. Jadot, mais certains dans son propre parti? Est-ce que c'est un projet réformiste, social-démocrate qui est porté dans cet ensemble? La question qui manque aujourd'hui, c'est quel est le projet de la gauche et comment se comporte le Parti socialiste, et peut-être demain un nouveau parti socialiste, une force qui soit celle de l'alternative? C'est ça les questions qui sont posées. Mais dans une situation, encore une fois, de tendance à la décomposition politique, avec des forces politiques qui n'ont pas performé dans les élections municipales, mais c'est traditionnel. On parlait tout à l'heure du Rassemblement national, mais il faut aussi parler de la France insoumise, qui a fait l'impasse sur ces élections, qui est quand même une force qui existe dans le paysage politique.
On
ne peut pas dire que cette élection soit signifiante ou significative par rapport à ce qui va advenir dans les mois et les années à venir.
En tout cas, ces alliances entre les socialistes et les écologistes ont lieu dans de très nombreuses villes, et notamment à Marseille.
À Marseille, où nous retrouvons Nathalie Chevance pour cette situation extrêmement tendue, fébrile, incertaine. Nathalie, et nous en parlions à l'instant avec nos invités.
Oui, complètement incertaine. Pour l'instant, le seul chiffre que je peux vous donner, il va vous frustrer, c'est celui de la participation. À 20h, 35%, c'est 3 points de plus par rapport au premier tour. Alors c'est un tout petit sursaut, mais on aurait pu espérer ici à Marseille quand même que les électeurs se mobilisent davantage. Parce que d'abord, c'est un duel de femmes. Martine Vassal d'un côté, alors certains la présentent comme l'héritière de Jean-Claude Gaudin, c'est vrai, mais c'est la fin de cet ère Gaudin de 25 ans de vie politique. Donc on aurait pu imaginer que les électeurs quand même se mobilisent. Et puis en face, vous en avez parlé, cette gauche unie, incarnée par Michel Rubirola, 63 ans, qui n'est pas une spécialiste de la politique, est un peu une novice, qui est une militante, qui a réussi à rassembler sur son nom les écologistes, le PS, le PC et les insoumis. Qu'est-ce qui va sortir des urnes pour l'instant? Vraiment, mais aucune tendance. Je me trouve ici dans le premier secteur, qui est un secteur qui est détenu par la droite, mais qui pourrait basculer à gauche avec la suppléante de Jean-Luc Mélenchon, Sophie Camard, qui est arrivée en tête au premier tour. Et ben devant son QG, il y a quoi ? Allez, une petite dizaine de militants. C'est vous dire, malgré l'enjeu, le peu d'intérêt finalement que cette élection suscite au sein des électeurs. Voilà. Et pour l'instant, malheureusement, je ne peux absolument pas vous donner aucune tendance. Et peut-être que nous n'aurons pas le nom du futur maire ce soir, parce que peut-être qu'il faudra attendre ce fameux troisième tour vendredi, a priori, la réunion du nouveau conseil municipal avec ses conseillers municipaux qui devront désigner le nouveau maire. Donc peut-être que ce soir, nous n'aurons qu'une majorité relative.
Avec ce vote par secteur qui complique les choses, et ça veut dire que ça va être peut-être quelques jours avant de désigner qui sera le successeur de Jean-Claude Gaudin, qui était installé à la tête de Marseille depuis 25 ans. Mickaël Darmon nous a rejoint. Bonsoir Mickaël.
Bonsoir.
On parlait des écologistes tout à l'heure. On verra quelle sera l'ampleur de cette vague verte qui a été anticipée par beaucoup d'instituts de sondage ces derniers jours. Il y a un rendez-vous demain pour Emmanuel Macron devant la Convention citoyenne pour le climat. Il devra forcément prendre en compte ses scores.
Non seulement il va effectivement prendre en compte ses scores, parce qu'il devra annoncer quels sont les arbitrages. En fait, c'est plutôt la Convention citoyenne qui va venir à l'Élysée pour donc être reçue par le président de la République. Il va donner ses arbitrages sur les 150 propositions qui ont été votées par cette Convention citoyenne. Bien évidemment, ça va s'inscrire dans la lignée de la soirée qu'on est en train de vivre, mais également mettra aussi en lumière les contradictions des alliances qui ont été passées souvent dans les villes entre La République En Marche et LR pour contrer les Verts parfois sur des alliances locales. Donc,
il faudra l'expliciter ce front, parce que ce qui sera le cas avec Édouard Philippe demain.
Et en plus, il sera avec Édouard Philippe qui a été, on le sait, assez, on va dire, opposé, ou en tout cas récalcitrant au processus donc de la Convention citoyenne, parce que ça ne rentre pas dans son cadre, on va dire, institutionnel, politique, habituel. C'est la raison pour laquelle, très certainement, il va vouloir donc que le Premier ministre soit avec lui à ce moment-là. Et d'ailleurs, ils se verront également, c'est une autre information, ils se verront avant, tous les deux, en tête-à-tête. Donc on peut imaginer qu'ils vont évidemment analyser la soirée. On peut peut-être spéculer sur le fait qu'ils vont peut-être parler de ce qui va se passer dans les prochains jours, puisqu'on sait qu'un remaniement se prépare, que vraisemblablement il devrait encore prendre quelques jours pour être abouti, parfait, parce que ce qu'on nous explique ce soir à l'Élysée, c'est que le président n'a pas encore reçu, vous savez, les contributions qu'il avait demandées aux trois présidents du CESE, du Sénat et de l'Assemblée nationale sur leur vision de ce nouveau chemin et de ce monde d'après, entre guillemets. C'est une fois qu'il aura réuni ses contributions, et peut-être aussi vérifié comment certains prétendants au gouvernement peuvent entrer ou pas, qu'à ce moment-là, on aura un déclenchement du remaniement. Donc, commence demain, effectivement, une semaine très importante, par ce tête-à-tête, puis ensuite cette convention citoyenne qui va à la fois s'inscrire dans la foulée des résultats de ce soir, mais également mettre en lumière la contradiction de l'analyse générale de La République En Marche à l'égard donc de la poussée écologiste qui, une fois de plus, on le note pour la première fois, réussissent à franchir le scrutin des Européennes. Jusqu'à présent, c'est un scrutin assez étanche. On disait toujours qu'il n'y a pas de projection du scrutin des Européennes sur les autres élections. Et cette fois, et ça montre bien quand même la poussée de ce mouvement, ça franchit le scrutin européen, et c'est à noter.
Eux aussi sont en quête de bastions, de villes symboles, on en a vu un certain nombre, et peut-être celle de Lyon. Quelques estimations donnent Lyon passer aux mains des écologistes ce soir, Édouard Levert.
Il y a effectivement des villes très symboliques comme Lyon, comme Strasbourg, on en parlait tout à l'heure, pour lesquelles, si on avait le résultat officiel ou en tout cas une estimation suffisamment affinée pour pouvoir le confirmer, ce serait plus que des symboles. C'est-à-dire qu'on entre maintenant sur un vrai écologisme municipal qui va devoir se mettre en marche.
Grenoble a fait des petits.
Qui va devoir se mettre en œuvre. Et c'est vrai que c'est un élément qui est assez remarquable. Je reviens sur ce que disait Mickaël, et c'est tout à fait juste. En général, lorsqu'il y a une poussée écologiste, et notamment lors des élections européennes, on a tendance à dire élections à caractère intermédiaire, élément un peu lointain. Là, ça avait été très remarquable, naturellement, mais aussi avec une participation faible. Alors, on peut aussi se poser la question, je ne tire pas de trait sur la comète, mais est-ce que participation faible et fort résultat écologiste sont des choses qui sont un peu automatisées ? Est-ce que ça veut dire qu'avec une participation très forte, qu'avec une remobilisation d'un certain nombre d'électeurs qui ne sont pas venus, quelques millions d'électeurs qui ne sont pas venus aux urnes cette fois-ci, est-ce qu'on garde cet élément-là ? Est-ce qu'ils réussissent à constituer un socle électoral, un noyau électoral mobilisable et remobilisable? C'est une vraie question pour l'avenir.
Et on parlait tout à l'heure des résultats de La République En Marche. Sibeth Ndiaye, ce soir, la porte-parole du gouvernement, reconnaît éprouver une déception. Vous écoutez Europe 1, il est 20h47. On va faire tout de suite un point complet sur tous les résultats qui nous sont parvenus depuis 20h. Le point des résultats avec Virginie Salmen.
Avec une surprise, je reprenais la citation de Sylvie Tendia. Une surprise ce soir à Lorient, dans le Morbihan. Le candidat d'hiver droite, Fabrice Loher, fait basculer la ville à droite. Le fief historique de Jean-Yves Le Drian passe donc aux mains d'un d'hiver droite, Fabrice Loher. Une petite mise à jour sur la situation à Lille. Martine Aubry est devancée de peu par le candidat Europe Écologie Les Verts, Stéphane Bally, avec 39 à 39,5% des voix contre 40 à 40,1% au candidat écologiste et autour de 21% à la candidate LREM à Colmar. C'est le candidat d'hiver droite Éric Stroman qui est élu à Bar-le-Duc. La d'hiver droite Martine Joly à Tarbes. Le d'hiver droite également Gérard Trémège. Et puis Bruel-Labussière dans le Pas-de-Calais ne passe aux mains du Front du Rassemblement National. Ludovic Pajot, le député RN, est élu face à Bernard Caillot. Et puis Carpentras, en revanche, ne tombe pas aux mains du Rassemblement National puisque c'est Serge Andrieux, d'hiver gauche, qui est élu avec 45,82% des voix devant Bertrand de la Chesnaye et Claude Melchior à Bastia en Corse. Pierre Savelli conserve son fauteuil de maire nationaliste avec 50,6% des voix face à Jean-Sébastien Casalta, d'hiver gauche 39,2% et Julien Morganti, d'hiver gauche 10,2% des voix. Le Parti Socialiste revendique ce soir la victoire dans une quinzaine de villes, notamment Saint-Denis de la Réunion avec l'ex-secrétaire d'État Erika Barretz, Mimizan, Fleury-les-Aubrais, parmi les grandes villes Quimper, Nancy, Le Mans, Rouen, Saint-Brieuc, Brest et puis Clermont-Ferrand. Et au Havre, le Premier ministre Édouard Philippe, je vous le rappelle, est élu avec 58,83% des voix.
Nous ferons réagir dans un instant à cette victoire du Premier ministre, nos invités Jean-Christophe Cambadélis, Nicolas Bay, mais du côté de Toulouse. Bonsoir Benjamin Peter.
Bonsoir Wendy.
Êtes-vous en mesure de nous donner les résultats ce soir?
Non, pas du tout pour le moment. Pas du tout. En tout cas, à Toulouse, le dépouillement est toujours en cours. Le seul chiffre dont dispose ici, c'est la participation. Elle est de 44%, plus 8 points par rapport au 15 mars. Et pour l'instant, donc, je vous le disais, aucune tendance ne se dessine encore. Tout le monde s'attend à des résultats extrêmement serrés. Un duel entre d'un côté Archipel Citoyen, la liste d'Union de la Gauche, emmenée par l'écologiste Antoine Maurice. Une liste qui réunit des socialistes, la France Insoumise, des militants associatifs aussi, du DAL notamment, et même des figures du mouvement des Gilets jaunes. Ce qui avait fait dire au maire sortant que les Gilets jaunes étaient aux portes du Capitole. Et donc, de l'autre côté, Jean-Luc Moudin, pour les Républicains et LREM, lui qui était arrivé en tête au premier tour, a donc dû faire face à de nombreuses fusions de listes à gauche. Jean-Luc Moudin, qu'on a vu tout à l'heure, souriant, quitter le Capitole pour rejoindre son local de campagne. Il devrait s'exprimer dès que les résultats seront connus. Et puis, je vais élargir un peu. Je voulais vous donner également les résultats de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, ville de Juste, et qui bascule, Rassemblement National. C'est Romain Lopez qui devient le nouveau maire de cette ville de 10 000 habitants, qui devient donc la première ville de l'ancienne région Midi-Pyrénées, dirigée par le RN.
Voilà, merci beaucoup Benjamin Peter. On suit bien sûr les premiers résultats à Toulouse dès qu'ils vous parviennent, Toulouse, où le maire sortant, donc Jean-Luc Moudin, est en ballottage face à un candidat écologiste Union de la Gauche. On va aller à Montpellier. Tiens, on reste dans le sud-ouest. Pierre Herbulot, vous êtes à Montpellier où là c'est une triangulaire avec beaucoup de suspense qui avait lieu aujourd'hui.
Oui, absolument. Bonsoir Sébastien, bonsoir Wendy. Je me trouve dans le QG ce soir du candidat d'hiver gauche, Mickaël Delafosse, investi par le PS et soutenu par Europe Écologie Les Verts. Et ici, sur les visages, beaucoup de stress, d'appréhension et d'impatience aussi. Le seul qui affiche un grand sourire, finalement, c'est le candidat. Un dernier sondage lui donnait la mairie d'une courte tête devant le maire sortant, Philippe Sorel, lui aussi d'hiver gauche. Et les premiers bureaux de vote dépouillés semblent donner raison à ce sondage, puisqu'il est... pour l'instant donné en tête avec 51% des voix devant donc le maire sortant Philippe Sorel avec 33% des voix et l'outsider Moed Altrad, le milliardaire, avec 15% des voix. Oui, sauf que ici à Montpellier, la campagne a été complètement folle et surtout imprévisible. Justement, Moed Altrad, le milliardaire, a été rejoint par trois formations politiques, des écologistes, une formation d'extrême gauche et puis aussi celle de l'humoriste Rémi Gaillard. Et puis aussi à Montpellier, ici, il va falloir composer avec, comme partout en France, l'abstention très forte pour ce second tour, plus de 60% ici. Je vous rappelle les tout premiers résultats très provisoires, 5 bureaux de vote sur 135. Le candidat du Parti Socialiste soutenu par Europe Écologie Les Verts donné en tête avec 51% des voix.
Pierre Herbulot, merci. On apprend à l'instant que Stéphane Le Foll est facilement réélu au Mans, alors que Marine Le Pen se félicite d'une vraie grande victoire du Rassemblement National. À peu près 5 villes tombées dans votre giron ce soir, Nicolas Bay. Je voudrais vous faire réagir à la victoire du Premier ministre ce soir. Doit-il rester à Matignon? Doit-il se concentrer sur un mandat local? Quelle est en tout cas votre volonté sur le sujet?
C'est pas à moi de dire ce qu'il doit rester à Matignon ou pas. Ça,
plaidez-vous
c'est
la permanence.
La discussion qu'il aura avec le président de la République.
Plaidez-vous le renouveau.
Ce serait idiot de ne pas reconnaître la victoire d'Édouard Philippe au Havre. Je la nuancerais cependant, parce que d'abord, on a le sentiment que c'est beaucoup plus la victoire de la personnalité d'Édouard Philippe que de la République En Marche. D'ailleurs, il n'est pas membre de la République En Marche. Donc en réalité, je ne suis pas sûr que la victoire au Havre d'Édouard Philippe soit vraiment à mettre au compte de Emmanuel Macron ou de son gouvernement ou de sa majorité. Et puis moi, je connais très bien le Havre, je suis élu de Normandie. Au Havre, les électeurs avaient par-dessus tout une préoccupation, c'était d'éviter que les communistes reviennent aux affaires. Puisqu'il avait en face de lui, il était en duel face à Jean-Paul Lecoq, le candidat historique du Parti communiste, le leader local du Parti communiste. Et vous disiez que le Rassemblement national gagne assez peu de villes ce soir. En réalité, c'est une progression qui n'est pas négligeable, Perpignan c'est une grande ville, mais surtout, il y a un élément de différence par rapport à 2014, c'est qu'en 2014, on ne gagne que dans des triangulaires. Là, il y a plusieurs villes qu'on gagne en duel. Ça montre une capacité à progresser importante, ça effondre un peu l'argument du plafond de verre qu'on nous ressasse un peu à chaque scrutin, et ça montre que le front prétendument républicain se craquelle quand même un peu de toutes parts. Alors, ce n'est pas encore généralisé, c'est vrai, mais c'est une réalité dans des villes importantes, dans des villes diverses, dans des régions diverses aussi. Des victoires dans le Pas-de-Calais, dans le Tarn-et-Garonne, dans le Vaucluse, dans les Pyrénées-Orientales. Ça montre aussi un Rassemblement national qui a une capacité de pénétration dans la société française, qui ne se limite plus à quelques départements qui seraient des fiefs, le reste étant relativement imperméable.
Et tout cela avec un très fort taux d'abstention, 60%. Et sur cette abstention, Jean-Luc Mélenchon parle ce soir de grève civique des Français. Les Français se sont mis en grève civique, ne sont pas allés voter. Jean-Christophe Cambadélis, vous êtes d'accord avec ce terme ?
Il n'y aurait pas grève civique, puisque lui, il l'emploie comme une manifestation contre les élites ou contre la classe politique. Je dirais qu'il y a une situation d'extraordinaire mélancolie, que les Français le manifestent de cette manière. Ils n'ont pas voté France Insoumise, pour autant, qui est pourtant une formation qui interpelle les élites. Il y a l'idée de se désengager dispositif démocratique. Et c'est à l'aune de ce que l'on voit dans la situation politique française, où tous les jours, il y a des catégories sociales, généralement dans l'appareil d'État, les policiers, les juges, dans la santé, un peu partout, il y a des crises, des manifestations. On a l'impression d'être confronté à un grand malaise français aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, cette déception qu'on attendait, qu'on supposait, qu'on déplorait déjà avant même ce second tour? Est-ce que ça signifie qu'il faut que chaque politique, comme chaque soirée d'élection, fasse son introspection et reconsidère son offre, sa mission sur le terrain, son rapport aux gens?
Oui, parce que j'ai participé à de nombreuses soirées électorales, et dans toutes les soirées
toujours
électorales,
des actes
les responsables
de contrition
politiques disent « on a gagné, c'est normal ». Mais si on se détache un peu de ce succès multiple et collectif, on constate quand même qu'il y a près de 60% des Français qui n'ont pas participé. C'est une indication, ce n'est pas simplement dû au coronavirus ou au fait que le premier tour était éloigné du second. C'est qu'il y a eu une prise de distance par rapport... Alors qu'il y avait des enjeux, qu'on pouvait participer à des
droits. Et qu'il y a du suspense ce soir dans un certain nombre de villes.
Évidemment, mais on avait ce reportage à Marseille, même les gens de la France insoumise ne sont pas en manifestation ou rassemblés pour la victoire de la gauche. Et donc, cette mélancolie démocratique me semble être l'élément dominant du scrutin ce soir, même s'il y a des succès des uns, des autres, même s'il y a des percées de la part des écologistes qu'on ne peut pas contester et qui vont se multiplier tout au long de la soirée, même si telle ou telle formation a fait un succès ici ou là, l'élément, diraient les sociologues, matrissant, c'est l'abstention massive.
Ouais, et qu'est-ce qu'on fait de cette mélancolie, de ce dégagisme démocratique dont parlait en tout début d'émission Olivier Duhamel? Bonsoir Philippe Mabille.
Bonsoir,
Éditorialiste à la Tribune, et vous nous rejoignez sur Europe 1.
Effectivement, comme ça a été dit, un malaise démocratique. Après, il y a 2 tours séparés de 3 mois, donc c'est quand même pas très facile de mobiliser les électeurs. Et puis, il y a peut-être ce sentiment, un paradoxe. On a vu pendant la crise les maires beaucoup s'exprimer, être en première ligne dans la crise sanitaire. Et puis, au moment de les réélire, les Français, effectivement, désertent les urnes. Alors, est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce qu'ils ont eu aussi le sentiment que les jeux, dans un certain nombre d'endroits, étaient faits? Il semblerait, mais vous ne l'avez pas encore annoncé, qu'à Paris, par exemple, où il y a eu beaucoup d'abstention, ça n'a pas nuit à la réélection de Mme Hidalgo.
Alors, justement, puisque vous me lanciez
une estimation
qui vient d'être donnée à l'instant par l'Institut Harris Interactive, donne donc la victoire d'Anne Hidalgo, qui serait donc réélue à Paris. Et puis, autre estimation qui est importante et qui est intéressante, elle concerne la ville de Lyon. Lyon qui basculerait dans l'escarcelle des écologistes ce soir. C'est une estimation également à Harris Interactive, la victoire de Grégory Doucet pour la mairie, pour Europe Écologie Les Verts. On va bien sûr aller à Lyon juste après 21h dans quelques minutes maintenant.
Face à cette déception, parce que je reviens sur ce sujet-là, Jean-Christophe Cambadélis, que doit faire le président de la République, président de tous les Français? Maintenir son Premier ministre de crise qui a fait ses preuves, ou au contraire, eh bien, renouveler son équipe et coller au plus près de cette distance manifestée par les Français?
Il doit tout changer. Il doit à la fois changer de Premier ministre, changer de gouvernement, changer de mode de relation avec l'opinion, les corps intermédiaires, mais il doit aussi changer d'orientation politique. Pas simplement aller chercher l'écologie comme une béquille du gouvernement. Il faut aujourd'hui remettre la question sociale au centre. Il faut une politique économique qui ne va pas durer comme ça pendant des mois et des mois, où c'est l'argent des contribuables ou de l'État, ou l'argent que l'on n'a pas d'ailleurs, qui finance la relance économique. Il faut tout changer. Et j'ai un peu peur que l'on ne change rien. C'est-à-dire qu'on garde le Premier ministre, qu'évidemment on fait une génuflexion devant la percée des écologistes. Et puis, pour le reste, c'est as usual, on continue la même politique économique et sociale. Le voyage de demain du président de la République en Allemagne pourrait peut-être déboucher sur des initiatives, je n'en sais rien, mais il faut, en France et en Europe, tout changer, parce que là, nous sommes au bord de la rupture.
Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste, d'être venu ce soir dans le studio d'Europe 1. Je remercie également Nicolas Bay qui nous a accompagnés pour le Rassemblement National. Si vous nous rejoignez sur Europe 1, on va vous redonner tous les résultats. Édouard Philippe, Anne Hidalgo, Lyon qui basculerait dans le camp écologiste. Ce soir, il est en train de se passer des choses. On vous donne tout, vous ne raterez rien. Il est 21h.
Europe 1, Municipal 2020. Votre soirée électorale présentée par Sébastien Krebs et Wendy Bouchard.
Alors que 60% des Français mobilisables aujourd'hui ont choisi de ne pas aller voter, malgré des villes à enjeu, de grandes batailles, de grandes surprises aussi. Nous relayons toutes ces informations en direct aussi sur Europe1.fr. La victoire d'abord du Premier ministre au Havre, on en parlait à l'instant, à 58%. Et voici ce tour des résultats à 21h avec Virginie Salmen.
Et à Lyon, le candidat écologiste Grégory Doucet serait loin devant le LR Cuchera. À Paris, Anne Hidalgo est réélue avec 50,2% des voix. Le Rassemblement National arrive en tête et Louis Alliot revendique sa victoire à Perpignan. Bruel-Buissière dans le Pas-de-Calais, Moissac-Tarn-et-Garonne et 2 communes du Vaucluse, Mazan et Bédarrides. Carpentras, en revanche, revient au divers gauche Serge Andrieux qui est élu. À Bastia en Corse, le maire Pierre Savelli conserve son siège avec 50,6% des voix face à 2 candidats divers gauche. Le Parti Socialiste ce soir revendique la victoire dans une quinzaine de villes, dont Saint-Denis de la Réunion avec Erika Barretz. Le socialiste Mathieu Klein revendique sa victoire à Nancy. Le Mans, Stéphane Le Foll est élu. Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol. Saint-Brieuc avec Hervé Guillard. Brest avec François Cuyandre. Et Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi est réélu. Le Premier ministre Édouard Philippe est réélu, lui, avec 58,83% des voix. Il salue des résultats nets et un acte de confiance. À Besançon, la candidate écologiste Anne Vigneault arrive en tête avec, pour l'instant, 43,1% des voix. Poitiers bascule du PS vers Europe Écologie Les Verts. Léonore Monconduit revendique la victoire à Poitiers face au candidat socialiste Alain Claise.
Merci Virginie Salmen.
On parlait de la poussée écologiste ces derniers jours. Elle était attendue Et c'est un coup, c'est probablement l'un des coups de la soirée dans l'une des plus grandes villes de France. Nous sommes à Lyon avec vous, Jean-Luc Boujon, et cette estimation qui vient à l'instant de nous parvenir. Lyon, la maison de Gérard Collomb, tomberait dans l'escarcelle des écologistes ce soir.
Oui, effectivement, Sébastien, c'est ce qui semble se dessiner ici. Et c'est bien cette victoire, cette large victoire même des Verts à la mairie de Lyon. On n'a pas de chiffres encore précis, encore consolidés à vous donner pour le moment. Mais on vient effectivement d'avoir cette tendance hein, donnée par un institut de sondage. Et puis ici, dans le QG des Verts à Lyon, dans un bar branché de la ville, on a vu des embrassades, des tapes dans le dos, de grands sourires. Ça sent bon pour les Verts, pour la mairie de Lyon. Donc Grégory Doucet arriverait largement en tête. Hein, c'est le candidat ici à la mairie. Il serait bien placé pour succéder à Gérard Collomb dans ce fauteuil de maire, ce qui serait effectivement une première prise de taille pour les Verts, ce qui était attendu en fait hein, depuis le premier tour, mais encore fallait-il que ça se confirme, visiblement c'est le cas et largement la ville de Lyon deviendrait verte ce soir. En revanche, dans le deuxième scrutin proposé aux Lyonnais aujourd'hui, celui de la métropole, cela serait beaucoup plus serré entre un écologiste, et là aussi Bruno Bernard, entre François-Noël Buffet pour l'Alliance Les Républicains, La République En Marche, soutenu par l'ancien maire Gérard Collomb, et puis le troisième homme David Kimmelfeld de Dissident LREM, là où on parle de chiffres dans un mouchoir. Évidemment, les Verts aimeraient faire ici à Lyon le Grand Chelem, ville et métropole, ce qui leur permettrait d'avoir tous les leviers pour gouverner ici, mais ils ont déjà la ville, c'est déjà une première prise.
Absolument. Merci Jean-Luc Boujon. Je salue Karima Deli, eurodéputée Europe Écologie Les Verts, qui nous rejoint. Bonsoir Karima Deli.
Bonsoir.
Nous allons à Tours tout de suite parce que le résultat dans la ville de l'Ouest vous intéresse également. Bonsoir François Coulon.
Bonsoir Wendy, même phénomène ici qu'à Lyon. Je peux vous l'annoncer sur la base de résultats partiels significatifs. Pour la première fois de son histoire, la ville de Tours est repeinte en vert ce soir. À ce stade, les écologistes emmenés par Emmanuel Denis et soutenus par la quasi-totalité de la gauche l'emportent avec près de 55% des suffrages face au maire sortant radical. Christophe Boucher, allié aux Républicains et à La République En Marche. 43 bureaux de vote sur 84 ont été dépouillés et ce résultat est suffisamment fiable pour que le candidat de la droite reconnaisse sa défaite. Cette victoire des Verts est un véritable séisme ici dans cette 27e ville de France, 136 000 habitants, qui accordait jusqu'à présent traditionnellement une prime au maire sortant. Le candidat écologiste a réussi l'union en s'y attaquant, il faut le dire, très tôt, dès 2017. Et manifestement, les supporters de la droite, et bien plutôt âgés, n'ont pas apporté au maire sortant le sursaut de mobilisation espéré. Donc Tours bascule du côté de l'écologie et de la gauche ce soir, de toutes les gauches, du PS à la France insoumise.
Des villes qui passent au vert selon les premières les estimations, Tours, Lyon, mais aussi Besançon, Poitiers. Et on va aller voir ce qui se passe du côté de Strasbourg avec vous Arthur Mbaché, parce que là aussi, les écologistes sont arrivés en tête au premier tour.
Et les duplex des correspondants se suivent et se ressemblent parce que Strasbourg verdit aussi beaucoup au fil des minutes là ce soir. Le premier des candidats d'ailleurs à être passé ici au centre administratif, c'est l'écologiste Jeanne Barseguian, moins souriante que d'habitude, très sérieuse et concentrée. Peut-être le poids de la fonction qui arrive sur elle, parce que voilà les tout premiers résultats sur 64 bureaux, les résultats réels, hein, les remontées des dépouillements, 40% pour la candidate écologiste Jeanne Barseguian, 33% pour le candidat En Marche allié avec les Républicains et 27% pour la candidate socialiste Catherine Trottmann, des résultats qui ressemblent à ceux d'un institut de sondage qui donne même la candidate écologiste au-delà de 42% des voix.
Voilà, c'est des estimations, mais les écarts sont quand même conséquents, donc on peut se dire que c'est a priori assez fiable. Merci Arthur Mbaché à Strasbourg.
Strasbourg, Besançon, Poitiers, Tours, Lyon, ça c'est une certitude. Incertitude à Lille, mais la ville pourrait basculer à gauche. Incertitude aussi, encore ce soir à Bordeaux, pour les mêmes raisons et avec les mêmes enjeux. Karima Deli, j'ai cité quelques-unes des villes que vous attendiez, que vous revendiquiez et où le succès est arrivé ou est à portée de main ce soir.
Oui, mais je crois que surtout, c'est que les Français envoient un message très clair. Les Français aiment l'écologie, mais ils ont soif d'écologie. Depuis tant d'années, on a traité l'écologie à coup de sparadrap ou de mensonges ou de paroles. Et aujourd'hui, ça montre quoi ? C'est que nous, les écologistes, on le dit depuis des années, mais on ne fera pas d'écologie sans les écologistes. On répond concrètement à ce que les Français, les Françaises attendent.
En local ?
Au niveau local, parce que nous sommes dans un adage très simple, agir local, penser global. Vous savez, moi, je suis à l'Europe, on agit toujours sur les solutions. À l'échelon local, c'est comment retrouver sa ville ? comment on met des cantines bio, comment on fait pour que les gens respirent un air pur, comment on fait pour qu'il n'y ait plus de pistes cyclables. Je sais que Paris, je viens d'arriver, a plus de pistes cyclables. Mais c'est surtout qu'ils ont envie de léguer une planète à leurs enfants qui soit vivable. Et je pense que la crise du coronavirus a montré une chose très importante selon moi, et vous l'avez un petit peu dit tout à l'heure, le monsieur de devant, je ne sais plus.
Édouard Le Cerf, de BVA.
Édouard Le Cerf, BVA.
Voilà. Vous avez dit une chose très simple, c'est que certes, je crois que ce soir, on doit quand même être humble, parce que l'abstention, elle est record. Et vous avez raison, vous avez parlé d'abstention, l'abstention est record. Mais je crois que la crise sanitaire a mis en lumière la crise institutionnelle et démocratique que nous vivons dans notre pays. Et je dirais une dernière chose, et j'en veux beaucoup à ceux qui parlent beaucoup d'écologie, qui font des grandes paroles. Avant, on avait un Front républicain pour faire barrage à l'extrême droite. Mmh. Aujourd'hui, En Marche a inventé le Front du déclin, sauver des postes de vieux politicards.
En tout cas, le Front pour, anti-écologie.
Pour dire que notre ennemi, c'est l'écologie, je pense que c'est le plus beau coup de pied aux fesses que les Français envoient, notamment à tous ces gens qui sont des vieux partis politiques.
Justement, vous dites ça à dessein parce que Aurore Berger est à côté de vous.
Qui ne se sent pas très vieille.
Porte-parole de La République En Marche.
Oui, mais quand vous regardez des villes comme Lyon...
On va la laisser répondre.
Où c'est quand même fou.
Oui,
parce
je veux bien répondre éventuellement.
Allez-y, mais parce que ça, pour moi...
Le fait est que dans plusieurs de ces villes, que ce soit à Tours, à Lyon, à Strasbourg, les candidats LREM se sont alliés avec les candidats des Républicains.
Oui,
ça n'a pas marché.
Je peux vous donner aussi des exemples de villes où on a tendu la main à Europe Écologie Les Verts. Europe Écologie Les Verts a considéré que cette main-là, il ne fallait pas la saisir. Je peux parler d'Aix-en-Provence, par exemple. Aix-en-Provence, c'est une ville très particulière. C'est une ville où on a une baronnie locale LR depuis des générations. C'est une ville où on avait des choses à démontrer ensemble, justement, sur le renouveau démocratique. Et Europe Écologie Les Verts a refusé cette alliance avec une candidate, Anne-Laurence Pétel, qui est députée et qui pourtant est très engagée. Donc, à un moment, il y a un choix. Soit on considère que l'écologie, en fait... ça appartient à un parti politique. Et dans ces cas-là, ça veut dire qu'il n'y a que ce parti politique qui a le droit d'en parler.
Bah manifestement, ça marche dans quelques villes.
J'entends bien sur le sujet quand même des cantines bio. Enfin, on va quand même à un moment dire les choses. Je crois que
c'est pas l'essentiel du programme.
Ça fait des années que des maires de droite, de gauche, l'AREM, l'ont fait. Moi, j'ai plein d'exemples dans mon territoire de maires qui ont passé aux cantines bio, de maires qui ont développé des mobilités nouvelles, etc. Donc, moi, je veux bien qu'en permanence...
On aimerait.
Mais on peut parler d'Alain Juppé à Bordeaux. Non, je vais juste finir. L'héritage que laisse Alain Juppé sur une ville et sur une métropole qui est dynamique, qui crée de l'emploi, parce que ça aussi, c'est quand même un enjeu qui est peut-être même l'enjeu le plus important qu'on va avoir dans notre pays, la création d'emplois, alors que nous allons affronter une crise majeure. Alain Juppé, il laisse aussi un bilan écologique qui est majeur sur cette ville. Donc on ne vienne pas dire aujourd'hui que seuls ceux qui portent une étiquette politique, à un moment, Europe Écologie est un parti politique. Un parti politique qui veut, et c'est bien légitime, avoir non seulement des candidats, mais avoir des élus. Et un parti politique qui a fait un choix très clair, qui était de dire les seules alliances avec lesquelles nous voulons bien, que nous voulons bien considérer, c'est avec la gauche, parce que l'écologie appartiendrait à cela. Eh bien, je suis désolée, mais on a des maires qui, depuis des années, ont démontré, et des élus, et des députés, et des parlementaires, qui ont démontré depuis des années qu'ils savaient faire de l'écologie. Par contre,
c'est
le
vrai,
bilan
écologique... C'est vrai, Karim Adeli.
Mais si, non, mais et le bilan, et moi ça. Je veux bien savoir, avoir clairement... Le bilan des écologistes au pouvoir. C'est quoi le bilan des écologistes sous Hollande? C'est quoi le bilan de Cécile Duflot quand elle était ministre? Ils ont fermé Fessenheim.
Là, on parle des enjeux locaux.
Non, mais non,
des municipales.
Mais c'est facile en permanence de dire à un moment nous sommes les seuls à avoir l'autorité suffisante pour donner des brevets d'écologie. Ben non, à un moment, ce n'est pas le cas. Et le bilan de François Hollande et Cécile Duflot sur l'écologie, je suis désolée, mais il n'est pas grandiose. Ou alors, il faut vraiment qu'on me le démonte là, que je veux bien les chiffres.
La gestion claire.
La gestion locale d'une ville.
Notre-Dame-des-Landes, Fessenheim, ça c'est nous. C'est pas Hollande.
Il faut arrêter de croire que l'écologie se résume à Notre-Dame-des-Landes et Fessenheim. Vous avez dit une chose importante. Vous avez dit, nous n'avons pas le monopole de l'écologie. Mais vous avez le monopole de l'inaction. Parce que c'est pas en
gros... des formules.
Non, pas du tout.
Non,
c'est pas parce que vous allez mettre en avant Fessenheim et,
ça, c'est pas de l'action.
Et Notre-Dame-des-Landes.
Mais est-ce qu'on peut parler des enjeux locaux, la gestion d'une ville à Fessenheim,
c'est une décision extrêmement difficile.
Dans les villes, qu'est-ce qui se passe?
Allez à Fessenheim, expliquez aux gens que la centrale va fermer.
Soyez gentils, je ne vous ai pas coupé. Soyez respectueuses. La première chose, c'est quand on parle de cantine bio, lorsqu'à l'échelle nationale, on n'est pas capable d'arrêter le glyphosate, on n'est pas capable d'arrêter le glyphosate. Et on viendrait nous faire leçon sur notamment des cantines bio, nous, ce que nous disons de manière très claire. Pourquoi nous ne faisons pas d'alliance avec certains partis politiques au niveau local? Très simplement parce qu'on fait confiance notamment aux militants qui ont une boussole. La boussole, c'est le programme. 200% sur le climat, 200% sur la question de la justice sociale, 200% sur notamment les questions institutionnelles et démocratiques. Et on voit au niveau local que certains préfèrent négocier des postes que des idées. Et nous, on l'a toujours été très cohérent. Quand vous me dites, mais vous, qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je suis présidente de la commission de transport au sein du Parlement européen. Et je peux vous le dire, 24 heures sur 24, j'essaie de trouver des solutions. Je suis en train de relancer le fret ferroviaire à l'échelle européenne pour que la France y soit.
On parlait du bilan de François Hollande et de Cécile Duflot.
Mais moi, je parlais du bilan municipal des Verts. Moi, je ne suis pas... Par exemple, la gestion de la ville de Grenoble, Karim Adéchi.
La ville de Grenoble, incroyable. Regardez ce qui se passe. Grenoble a réinvesti sur de la mobilité durable qui est en train d'exploser partout. Regardez ce qui se passe sur les services publics. Regardez sur les coopératives alimentaires qui sont extraordinaires.
Regardez sur l'insécurité à Grenoble qui a explosé. Parlez aux commerçants grenoblois de l'insécurité à Grenoble.
Ne dites pas de la sécurité. Grenoble aujourd'hui est la première ville qui est dans la transition écologique. Vous n'allez pas nous donner des leçons sur la transition écologique. Vous êtes aujourd'hui dans un monopole de le gouvernement de la parole. Nous, on est dans les acteurs de terrain.
Je voudrais qu'on aille à Bordeaux parce que là-bas aussi, les choses se dessinent. Et là-bas aussi, les Verts, semble-t-il, sont en position de prendre la ville. L'écologiste Pierre Urmic serait devant l'héritier d'Alain Juppé. Stéphane Place, quelles sont ces toutes dernières estimations ?
Alors, on va être très prudent, Sébastien, parce que le dépouillement a commencé il y a un peu plus d'une heure maintenant. Et effectivement, ce que l'on voit, c'est que les visages se tendent. Il y avait une certaine décontraction ici, dans la cour de l'hôtel de ville, tout à l'heure, vers 20h. Et au fur et à mesure que le dépouillement se réalise dans différents bureaux de vote, il y a des indications qui, très clairement, donnent la tension entre les deux camps. Et ce sera de toute évidence, nous dit-on, très, très serré. Autre indication, d'ailleurs, le QG du candidat écologique vert Pierre Urmic est fermé pour l'instant à la presse. Donc on sent bien que les états-majors du maire sortant en particulier et de son principal opposant sont extrêmement prudents. On a compris que ça allait se jouer probablement dans un mouchoir de poche. Et pour l'instant, il y a très peu de commentaires. Mais on voit juste au visage que la tension s'accroît de minute en minute.
Pardon. Merci. Mais on va faire un petit rappel des points de situation. Pardon, nous étions en pleine discussion parce que des estimations nous parviennent. Elles sont nombreuses et notamment à Lille où il n'est pas dit que Martine Aubry perde la mairie. C'est vraiment extrêmement sensible et tendu. On fera le point dans quelques instants si Lionel Gougelot a des choses à nous dire. En attendant, Virginie Salmen, on vous écoute pour les derniers résultats sur Europe 1.
Alors, une large victoire des Verts se dessine à Lyon avec le candidat Grégory Doucet. En revanche, le scrutin semble plus serré pour la métropole entre les candidats. À Tours, pour la première fois, la ville devient écologiste. C'est la 27e ville de France. Une vague verte également à Besançon avec la candidate Anne Vigneault en tête. À Poitiers, Léonore Monconduit revendique la victoire. À Strasbourg, le scrutin se verdit de minute en minute. 42,5% à l'heure actuelle en faveur de la candidate écologiste Jeanne Barseghian. Et puis, même chose à Bordeaux. Le candidat Europe Écologie Les Verts, Pierre Urmic, devance de peu en ce moment Nicolas Florian, le candidat LR et LREM. À Annecy, la ville d'Annecy passe également aux écologistes. François Astorgue est élu avec 44,74% des voix. D'autres résultats nous parviennent. À Biarritz, la ville passe LR. Maider Arostegui l'emporte avec 50,22% des voix. À Mulhouse, la candidate Michèle Lutz, qui est la maire sortante d'hiver droite, est réélue avec 38,61% des voix. À Limoges, réélu également Émile Roger Lomberti, le candidat LR. Et puis à Albi, Stéphanie Guiraud-Chomeil, la candidate centriste, la maire sortante centriste, est réélue avec 49,95% des voix. Et puis je vous rappelle que Anne Hidalgo est réélue avec un peu plus de 50% des voix.
Merci Virginie Salmen. C'est beaucoup de résultats qui arrivent dans les grandes villes en ce moment, et notamment une ville très très attendue ce soir, c'est Marseille. Nathalie Chevance, une estimation qui donne L'Union de la gauche, l'écologiste Michel Rubirola en tête ce soir.
Très largement en tête, hein. Énorme surprise. Michel Rubirola, d'après un sondage sorti des urnes, obtiendrait 39,9% des voix. Très largement en tête, 10 points d'avance sur Martine Vassal, qui serait donc battue ici à Marseille, 29,9%. Ce qui donnerait, a priori, alors on va rester très prudent, on va employer le conditionnel, une majorité entre 59 et 67 sièges pour Michel Rubirola, donc la candidate de la gauche, qui obtiendrait donc la majorité absolue. Martine Vassal n'aurait que 14 à 23 sièges. Stéphane Ravier, le candidat du RN, entre 8 et 17 sièges. Et puis très loin derrière, Bruno Gilles, avec 2 sièges, le candidat d'hiver droite dissident LR. Et Samia Ghali, entre 2 et 8 sièges. Donc je peux vous dire qu'ici, devant l'un des QG du printemps marseillais, dans le premier secteur de Marseille, eh bien, oui, on a entendu déjà des cris de joie. Mais restons prudents.
Merci Nathalie Chevance. Depuis Marseille, victoire écrasante, vous le rappeliez, à Lyon, des Verts à 50%. Karima Deli est avec nous, elle témoignait de cette vague écologique sur laquelle je voudrais vous faire réagir. Philippe Mabille, vous qui êtes éditorialiste pour le journal La Tribune, il va devoir quand même composer avec cette réalité demain, recevant son Premier ministre Emmanuel Macron,
absolument,
recevant les membres de la Convention climat.
Ces élections, c'est une déception, une désillusion, peut-être une déconfiture pour le parti au pouvoir, La République En Marche. C'est par ailleurs la poussée effectivement extraordinaire des Verts qui prennent des très grandes villes. Enfin, restez prudents parce qu'on n'a pas tous les résultats définitifs, mais ceux que vous venez de donner sont quand même spectaculaires. C'est un vrai tournant, parce que ce n'est pas que des élections locales. On aura forcément une lecture nationale, vous l'avez dit. Et effectivement, au moment où le président de la République dit vouloir se réinventer, tracer un nouveau chemin, il va falloir en tenir compte. Alors après, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que aussi attention au troisième tour, parce qu'il va falloir élire les maires. Donc ça, il y aura peut-être des arrangements politiques. On sait que Karima Deli parlait tout à l'heure de politicard. On sait pas, ils n'ont pas forcément dit leurs derniers mots. Et enfin,
notamment
peut-être
dernier
commentaire, c'est peut-être attention aussi à l'illusion écologiste, parce que par rapport à tout le discours qu'on entend, il faudra voir s'il y aura des actes derrière, notamment sur la politique nationale.
Aurore Berger, peut-être un mot. Monsieur Mabi disait déception, désillusion. Déception, c'est aussi le terme qu'utilise Sibeth Ndiaye ce soir pour La République En Marche. Malgré tout, l'électorat à LREM ne s'est pas mobilisé. C'est ça aussi l'enseignement de l'abstention.
Ce qui est certain, c'est que je ne peux pas venir sur un plateau en disant c'est une grande victoire. Je ne serais pas tout à fait crédible. Donc à la fois, il y a un sujet démocratique, un sujet d'abstention qui est majeur et qu'on partage tous quand même, et qui doit être aussi une alerte au-delà de la situation très particulière que ces élections nous ont fait vivre. Et évidemment, il y a un sujet de mobilisation de celles et ceux qui pourtant soutiennent la majorité présidentielle. Donc il y a à la fois une progression qui existe de fait du nombre de nos élus locaux, puisque de fait nous n'en avions quasiment pas, puisque nous étions absents des précédents scrutins, par principe même, puisque La République En Marche s'est créée en 2016. Donc il y a un certain nombre, il y a 402 maires La République En Marche qui ont été élus dès le premier tour. Il y a des élus locaux, on aura plusieurs milliers, plus de 10 000 élus locaux La République En Marche, ce qui est aussi une force de changement dans les territoires. Mais c'est vrai qu'on aurait pu espérer, en effet, que ces élections puissent permettre des changements. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on voit que des fiefs historiques, LR ou PS, ce soir, tombent.
Alors,
c'est aussi la nécessité, la démonstration d'un renouveau démocratique. Il faut qu'on aille au bout de la réforme institutionnelle, par exemple. Il faut qu'on assume de dire que non, on ne peut plus rester élu pendant 3, 4 ou 5 mandats. Et d'ailleurs, à la fin, les électeurs le disent. Ils disent que ça suffit, que ce soit à gauche comme à droite, ils considèrent que ce renouveau est démocratiquement nécessaire.
Adrien Quatennens nous a rejoint, député de la France Insoumise du Nord et coordinateur de ce mouvement. Bonsoir.
Bonsoir.
Votre patron parlait tout à l'heure de grève civique, rapport à l'abstention et à la très faible participation de 40%. Était-ce une manière de justifier que vous n'y étiez pas davantage, vous, la France Insoumise, dans cette campagne
non,
de
non,
terrain
pas
et
du tout.
Local.
D'abord, nous avons fait un choix stratégique lors de cette élection municipale. Nous avons considéré que, parce que nous aussi, nous sommes un mouvement jeune qui est né avec l'élection présidentielle de 2017. Plutôt que de planter fièrement le drapeau insoumis dans toutes les communes où nous candidations, de faire le choix de la stratégie que nous avons appelée de la fédération populaire, c'est-à-dire de larges coalitions dans lesquelles nous avons pris part et qui d'ailleurs sont ce soir victorieuses. Je
Par
pense
exemple.
À Lyon, je pense à Tours. Bon, voilà. Donc,
Lyon est aussi votre victoire.
Ben, évidemment, et Karima Deli le sait, puisque nous avons travaillé ensemble sur ces villes. Donc c'est quelque chose qu'il faut pouvoir signifier. Après, ce soir, franchement, bien mal inspiré, qui ferait une analyse électorale à l'ancienne d'un tel scrutin. Nous sommes réunis autour de cette table et de ces micros pour commenter un scrutin qui a vu se déplacer seulement 40% des Français. Donc ce qu'il faut dire d'abord et avant tout, c'est que cette abstention qui devient maintenant chronique de scrutin en scrutin, l'élection municipale était encore l'un des rares scrutins qui voyait se déplacer plutôt les Français, eh bien ce soir, cette élection rejoint le rang des autres élections avec peu de participation, une abstention massive. Donc pour nous, il y a un problème qui est d'ordre institutionnel. Et quand nous disons que, en quelque sorte, l'abstention a une signification politique, c'est vrai, c'est pas une abstention passive, les gens restent pas chez eux par fainéantise, ils signifient quelque chose politiquement en s'abstenant. Et en substance, ils nous disent, eh bien puisque c'est comme ça, débrouillez-vous sans nous. Eh bien, nous, ce que nous pensons, c'est qu'il est venu le temps d'un changement institutionnel nécessaire.
D'un vote obligatoire.
Et pas que les parlementaires fassent ce changement dans le cadre d'une réforme institutionnelle entre eux. Mmh. Le peuple, en s'abstenant, dit qu'il ne consent plus à une règle du jeu à laquelle il est appelé. Il faut lui permettre de la redéfinir lui-même. Voilà où nous en sommes dans ce
Donc
pays.
Donc on ne gère plus les territoires avec des maires
ce soir, même si on peut noter effectivement, notamment la poussée écologiste, parce que l'environnement et l'écologie, de toute façon, met toute l'humanité au pied du mur par-delà bien des désaccords. Mais en réalité, aujourd'hui, ce qui nous inquiète particulièrement en France, c'est cette abstention considérable qui est un signe de l'agonie d'une 5e République finissante.
On va aller à Lille, parce qu'à Lille, les choses se précisent. On vous le disait, beaucoup de suspense. Martine Aubry au coude à coude avec un candidat écologiste. Lionel Gougelot, les choses se précisent et c'est même l'entourage de Martine Aubry qui semble revendiquer la victoire. Ça y est.
Oui, effectivement, l'annonce de la victoire vient d'être faite par l'entourage de Martine Aubry. Alors, on n'a pas encore confirmation du score précis qui mettrait la maire sortante en tête devant donc le candidat Europe Écologie Les Verts, Stéphane Bailly. On parle ici de quelques dizaines, 200 voix d'écart peut-être en faveur de Martine Aubry. Ce sont les premières informations qui nous sont remontées. Mais encore une fois, l'entourage de Martine Aubry est formel. Ce soir, la maire de Lille est réélue à son poste de maire, ou en tout cas, elle arrive en tête de ce second tour de scrutin. Vous l'avez dit, il y a eu un suspense assez surréaliste ici en mairie de Lille. On avait même des estimations qui donnaient les deux candidats à égalité très nette. Et finalement, donc, Martine Aubry, ou en tout cas son entourage, annonce la victoire de Martine Aubry. On attend évidemment une concrétisation, une déclaration de la maire sortante de Lille d'ici quelques secondes.
Bien sûr, vous n'hésitez pas à nous en faire part, Lionel Gougelot, sur l'antenne d'Europe 1 et en direct au cœur de cette soirée électorale jusqu'à 22h30. Elle devra composer de toute façon très très clairement avec les forces écologiques sur place, Karim Adeli, Martine Aubry, demain.
Totalement, mais moi je n'ai pas compris du tout dès le début la stratégie de Martine Aubry. Qui conseille Martine Aubry ? Qu'est-ce que ça veut dire à Paris?
Montrer qu'elle est capable seule d'assurer un quatrième mandat sans alliance.
Moi, je crois que vraiment, à ce niveau-là, je pense que lorsqu'on n'est pas capable de se mettre autour de la table et de défendre des idées communes, on ne peut pas négocier. On n'est pas là pour des postes, on est là pour la cohérence de nos idées.
Donc ça va être la guerre au conseil municipal?
Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les écologistes dans les exécutifs, ils ont un objectif, changer la vie des gens en mieux. C'est ça notre priorité. Quel que soit l'échelon où nous sommes, nous voulons changer concrètement la vie des gens. Pas de grands discours. Nous n'avons plus le temps. Vous savez, je tiens à rappeler ça parce que c'est important et que voilà, on est aussi une jeune génération. On est la première génération quand même qui ressentons les effets du dérèglement climatique. Mais nous sommes la dernière génération qui doit agir avant qu'il soit trop tard. Et c'est là où je ne comprends pas aujourd'hui tous ces élus qui sont dans le déni de la transition écologique, qui pour moi soit sont des ringards, soit sont des cyniques. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir mettre en avant le fait que nous devons agir concrètement pour changer les gens, pour changer la vie des gens. Et à votre question, il faudra composer. Bien sûr qu'il faudra composer. Et il va falloir faire, surtout.
Alors, Martine Aubry, elle avait fait donc la course seule. Elle s'est retrouvée face aux écologistes qui étaient ses anciens alliés. Ce n'est pas le choix qu'a fait à Paris Anne Hidalgo qui s'est alliée avec les écologistes dans l'entre-deux-tours. Et ce qui lui permet d'être, semble-t-il, ce soir très confortablement réélu à Paris, puisque la dernière estimation Harris la donne à 50% contre 32% pour Rachida Dati et 16% très loin pour Agnès Buzyn. On va justement aller du côté du QG d'Agnès Buzyn, rejoindre Jean-Gabriel Bourgeois. Quelle est l'atmosphère après donc ces résultats, Jean-Gabriel?
Eh bien écoutez, ici Sébastien, l'effervescence elle est plutôt sur les terrasses des restaurants du boulevard qu'à l'intérieur du QG d'Agnès Buzyn, où rien ne filtre de ce qui se passe à l'intérieur. Les premières indications, vous le disiez, sonnent comme une catastrophe, me confie à l'instant une tête de liste parisienne, entre 14 et 16% selon les premières estimations, en dessous de son score du premier tour. On s'oriente donc vers une défaite cinglante pour la candidate du parti présidentiel à Paris. Agnès Buzyn doit s'exprimer ici dans quelques minutes avant de rejoindre son équipe du 17e arrondissement, là où elle est tête de liste.
Merci Jean-Gabriel Bourgeois. On suivra évidemment la soirée aussi d'Anne Hidalgo avec nos différents envoyés spéciaux à Paris.
Philippe Mabi, qui est avec nous, partenaire fidèle des sondages de l'entre-deux tours. On a suivi avec vous les résultats et BVA à Toulouse, à Marseille, à Paris. Quelle est la plus grande surprise pour vous ce soir qui a déjoué les pronostics ou les intentions de vote ?
C'est encore un peu tôt parce qu'on n'a pas tous les résultats, mais je pense qu'effectivement, quand même, la victoire du Premier ministre Édouard Philippe, qui était en ballottage quand même potentiellement difficile, change peut-être la donne. De quel côté va pencher le balancier de la Macronie cette semaine, ou quand il va falloir remanier peut-être le gouvernement ? Est-ce que Emmanuel Macron va devoir ou vouloir garder son Premier ministre ? Est-ce que, de l'autre côté, ce Premier ministre est compatible avec la poussée verte, très forte ? Et donc, on voit bien la difficulté, la tension, le En Marche en même temps est en train de changer un peu de nature. Il va être à la fois de droite et écologiste, ou vert, et ce ne sont pas forcément toujours compatibles. Je vois Karima Deli qui dit non, mais...
Ça veut dire qu'il est impossible d'imaginer un homme ou une femme Europe Écologie Les Verts au gouvernement. Oui,
non, mais je crois que le scénario du film du remaniement est déjà écrit. C'est-à-dire qu'on va avoir un jeu de chaise musicale des ministères avec un élément de suspense, et vous l'avez un peu dit dans vos propos, est-ce que Édouard Philippe va rester ou pas ? Et ensuite, pour le reste, ce sera la même politique et qu'il y aura les mêmes effets. On ne va pas changer de cap. Donc à la question de savoir est-ce qu'il y aura des écologistes Europe Écologie Les Verts, moi je vous dis très clairement, il n'y aura pas de gens d'Europe Écologie Les Verts dans le prochain...
Éventuellement d'anciens écologistes.
Peut-être des anciens, mais en tout cas, dans mon parti, on n'ira pas pour la simple et bonne raison, c'est que nous sommes dans la cohérence. La cohérence, elle est très simple. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas, justement, c'est un petit peu grande gueule et petits bras sur l'écologie. Make our planet great again, on a commencé à dire ça, hein. Franchement, alors nous, on est à l'Europe, on regarde ça d'une manière assez sympa, au départ, mais ensuite, quand on regarde les trois ans, on se dit, oh là là, pourquoi on n'est pas leader en Europe sur les questions écologiques ? Quand on voit les autres pays, on dit toujours ils sont en avance. Pourquoi ? Sur les émissions de gaz à effet de serre, on ne les a pas baissées. Sur la question de la politique agricole, sur le bio, on n'a pas fait d'effort sur les pesticides. Je peux tous vous les citer.
Ça, c'est un regret quand même.
Mais ça, mais c'est des actes manqués.
L'avancée très lente.
C'est ça qui est terrible.
Pour ne pas dire autre chose du gouvernement et des membres du gouvernement sur le sujet.
Dommage. Non, parce que moi, je n'en fais pas du tout le même bilan. C'est pas vrai. Encore une fois, il y a
quels sont les accomplissements ou les réussites à part la convention climat citoyen pour découvrir les mesures demain.
Voté, la fin, par exemple, de la possibilité d'extraction des hydrocarbures dans notre pays, c'est pas tout à fait anodin de le dire. Sur la question européenne, on peut reparler mille fois du glyphosate, ou on peut juste dire un fait simple, c'est que s'il n'y avait pas eu l'engagement de la France et d'un certain nombre d'autres pays, vous savez pertinemment que ça aurait été renouvelé au sein de l'Union européenne pour de très nombreuses années, et non pas ce qui a été obtenu et arraché à la fin. Et vous savez bien qu'à un moment, il faut accepter au sein de l'Union européenne à la fois d'avoir des leaders, mais aussi faire des compromis, et que sans la voix de la France, ça n'aurait pas été possible.
Vous avez la majorité dans notre pays, allez-y, vous avez un grand groupe à l'Assemblée nationale. Vous pouvez diriger toutes les lois.
Non, déjà, on ne dirige pas toutes les lois, ça ne se passe pas comme
attendez,
ça.
Vous avez quand
et heureusement,
les choses ne se passent pas. Mais
qu'est-ce que vous attendez ?
Allez-vous tirer les enseignements de cette vague verte qui est en train de se dessiner dans un certain nombre de villes ? Est-ce qu'il faut verdir encore plus le gouvernement à l'occasion de ce remaniement qui est en train de se préparer ? Est-ce qu'il faut faire rentrer un écologiste, une figure ? On parle de Pascal Canfin, dont le nom est prononcé souvent.
Mais je crois que la question du casting, c'est une autre question. La question, c'est en effet le cap. Oui, mais je ne pense pas que ce soit ça d'ailleurs qui soit attendu. Je pense que ça nous intéresse, nous, le casting. Je ne suis pas sûre que ça passionne au-delà de nous. Par contre, la question,
savoir
c'est
si on change le Premier ministre ou si on le garde, ça intéresse les Français quand même.
Oui, mais ça, j'entends la question du Premier ministre. Après, je ne suis pas sûre que déjà, un, les Français connaissent forcément les noms qu'on évoque. Deux, que vraiment ce soit essentiel pour eux. La question, c'est en effet celle du cap. Et aussi, est-ce qu'on est jugé crédible ou non sur ce cap-là ? Tout simplement, je pense. Moi, je regrette, en effet, que quand on prend des actes qui sont loin d'être anodins, et encore une fois, ce que je dis sur Fessenheim, je suis désolée, j'insiste, mais parce que ce n'est pas anodin à faire. Sinon, vous savez, ça aurait été fait avant. Allez-y à Fessenheim. Mais, allez expliquer aux gens qui y travaillent que, de fait, on a fait un choix qui met fin à cette exploitation.
Et on continue avec Édouard Philippe demain.
Ça, c'est pas à moi de le dire, c'est au président de le dire. Ce que je sais, c'est qu'il a trouvé avec Édouard Philippe, et ça, personne ne peut dire le contraire, quelqu'un qui a toujours été solide, qui a toujours été loyal, et qui vient de regagner de manière extrêmement claire et nette au Havre, avec 59% des voix, Je pense que beaucoup de gens auraient aimé faire ce score-là et peu de gens lui prédisaient ce score-là.
À l'instant, à Tours, hein, l'écologiste Emmanuel Denis revendique sa victoire et puis à Strasbourg, ça se dessine. Hein. Estimation Ipsos, le candidat LREM largement devancé par l'écologiste. Il va donc prendre le contrôle de la ville de Strasbourg.
Absolument. Voilà. Adrien Quatennens, vous vouliez réagir juste avant les résultats de Virginie Sanden.
Oui, non, sur la question écologique, aujourd'hui, tout le monde fait de l'écologie, tout le monde en parle, tous les partis en parlent. La question, c'est quelle écologie et dans quel contexte situons-nous ? Si on écoute les scientifiques nous parler, ils nous disent qu'en gros, on a quelques 12 années, 10 ans,
10,
ouais. pour procéder à des bifurcations radicales à l'échelle de toute l'humanité. Donc, à partir de là, on doit pouvoir définir ce qu'est véritablement une politique écologiste. Emmanuel Macron, c'est vrai, parle beaucoup d'écologie. Dans son dernier discours présidentiel, il a mis beaucoup de vernis vert, c'est plutôt joli. Mais la réalité, c'est que de l'autre main, il continue de signer des accords de libre-échange qui sont absolument anti-écologiques. Donc la politique en matière d'écologie, si on a 10 ans pour régler le problème, c'est pas juste verdir un peu le discours libéral, et c'est pas non plus attendre que les petits ruisseaux et l'initiative individuelle fassent de grandes rivières. Il faut des politiques, il faut un État centralisateur qui planifie, qui organise. Précisément ce qui n'a pas été fait dans la gestion, par exemple, de la crise que nous connaissons. Donc, mettre toute notre économie au service de la planification écologique et de la bifurcation, oui, la France peut le faire. Je pense d'ailleurs qu'elle a beaucoup d'atouts, même à l'échelle de l'Union européenne, pour l'engager. Elle est très regardée. Donc, c'est ce que nous pourrions faire. Ce n'est pas simplement faire de l'écologie cosmétique. Oui, il y a des choses qui ont été faites, mais elles sont toujours... C'est des micro-pas.
Même si vous considérez que l'écologie penche toujours à gauche. Hein.
C'est pas une question. Si vous voulez, je comprends que pour pouvoir commenter, y compris des résultats électoraux, vous avez besoin d'essayer de ranger les choses dans des cases.
Pas du tout. C'est un de nos interlocuteurs qui dit ça tout à l'heure.
La réalité, c'est quelle écologie sera adaptée à la situation que nous avons sous les yeux. Soit vous pensez qu'on peut simplement continuer la concurrence libre et non faussée, le grand déménagement du monde et essayer de s'améliorer à la marge. Soit vous pensez, et moi je me base sur ce que je lis de ce que nous disent les scientifiques, sur le fait que les changements auxquels il faut procéder, ce n'est pas un petit virage, c'est un changement complet de trajectoire. Et on peut le faire, à la condition d'en avoir la volonté politique et d'admettre qu'on ne peut pas continuer à reproduire sans cesse les mêmes politiques, y compris après des crises aussi importantes que celles que nous avons connues. Enfin, nous n'affrontons pas simplement une crise sanitaire, c'est l'échec d'un modèle particulier. D'un mot, c'est l'échec de ceux qui ont préféré la concurrence libre et non faussée à des cadres de coopération, le grand déménagement du monde à la relocalisation de certaines productions,
ce qui peut
et
se dire dans un certain nombre de votes aussi.
La compétition généralisée au fait de s'accorder les uns les autres. Voilà ce que nous devons faire pour pouvoir engager la planification écologique de façon digne.
Et il est 21h34 sur Europe 1. On vous accompagne et on vous informe tout au long de cette soirée. Beaucoup de résultats qui nous parviennent à ce stade de la soirée et donc cette très forte poussée verte dans un certain nombre de villes, y compris des grandes villes. On vous redonne l'ensemble des résultats dans quelques secondes.